Catherine Daniel Cavanis, très concentrée. Voile ou pas voile, la question fait grand bruit depuis qu'un élu Rassemblement National a donné à une femme qui accompagnait, a demandé à une femme qui accompagnait un groupe d'élèves dans le conseil régional de Bourgogne de l'enlever, ce fameux voile. Alors Daniel, elle nous dit que peut-être on se trompe depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Daniel?
Alors, tout le monde y va de son couplet sur le voile.
Et, oui.
Et si ça n'était pas si sérieux, on pourrait imaginer un concours de sottises avec beaucoup d'ex-aequo en première place.
Ben voyons.
Ouais, je veux parler de ce serpent de mer qui est devenu l'affaire du voile islamique
et
les nombreuses confusions qui en résultent. Les faits. Le nombre de jeunes filles et de femmes couvrant leurs cheveux va croissant dans notre pays et plus généralement dans le monde. Cela coïncide avec l'importance du fait terroriste qui nous émeut d'autant plus qu'il se manifeste près de chez nous et qu'il est alors aisé de se projeter. N'oublions pas que la majorité des victimes sont ailleurs. Les reportages télévisés en donnent maints exemples. Les quartiers difficiles ont souvent une population issue de l'immigration. Le syllogisme parfait, c'est « les problèmes viennent des musulmans qui sont islamistes, rétrogrades et violents ».
Mais tout de même, Daniel, il y a un sondage récent qui dit tout de même que plus de la moitié des Français, l'islam est la source de beaucoup des problèmes auxquels la société française est confrontée. On ne peut pas l'oublier, ça.
Certes, mais la majorité n'a pas nécessairement raison sur quelque sujet que ce soit. Je n'aurais pas la cruauté de rappeler certains exemples. Les généralisations et les amalgames
les fameux
ont souvent des conséquences absolument désastreuses. Là encore, les faits. Le voile contrarie les femmes occidentales, et je me mets dans le tas, à fond. Pas tant pour des raisons religieuses, mais parce que elles y voient, nous y voyons, un signe de soumission qui va à l'encontre de la libération des femmes qu'elles ont obtenue.
Bah oui.
Mais l'islam ne l'impose pas absolument, d'après de nombreux représentants du culte musulman. Mais il correspond, en tout cas en Occident, à une demande sociale qui ne peut pas être vue que comme une contrainte imposée par les pères, les frères et les maris.
Et les maris. Mais alors, quelle explication, Daniel Cavanis?
Mais même si on admet qu'il puisse y avoir une forme de conformisme de groupe, qui n'est certainement pas le signe du plus grand progressisme, le besoin de ruer dans les brancards est le même dans la même tranche d'âge. Donc on peut en déduire que c'est un choix globalement assumé et que même pour certaines gamines, c'est une façon de s'identifier par rapport à la majorité. C'est une façon pour les plus jeunes de gagner plus de liberté personnelle. On m'embêtera pas, donc je peux sortir. Pour les adultes, comme le disait une amie, de garder leur souci de coquetterie pour la maison. On peut entendre cet argument.
C'est un acte de rébellion.
Un peu.
On peut.
J'ai envie de retourner le raisonnement. Ce ne sont pas vraiment les femmes que l'on protège, mais en fait les hommes.
Ça alors?
Eh ouais, eh ouais. Ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, ne se maîtriseraient pas. Il faut éviter les laisser dans les pattes de leurs démons. Alors, que faire qu'on améliore l'éducation des garçons et des filles pour en faire des adultes responsables, capables de se respecter et de respecter les autres? D'ailleurs, l'éducation des filles progresse, voile ou pas voile. Même dans les pays du Proche et Moyen-Orient, les femmes font des études et accèdent pour beaucoup à des postes de responsabilité. La peur de l'autre se nourrit de l'ignorance et des préjugés, notamment dans une guerre des sexes totalement idiote. Or, dans nos pays, trop souvent, filles et garçons issus de l'immigration ont un accès plus difficile à l'emploi, après avoir eu des conditions de formation plus compliquées, notamment parce que personne ne pouvait les aider, ce qui rend leur mérite d'autant plus grand. Les réflexes de repli ont souvent pour origine un manque d'estime de soi, dont on devrait changer de regard, ce qui peut réduire d'autant le besoin de se singulariser.
Mais c'est pas un peu le monde des bisounours que vous décrivez là, Daniel?
Non. C'est peut-être une vision optimiste que le présent ne semble guère corroborer.
Ça, c'est sûr.
Mais, pour paraphraser Martin Luther King, « I have a dream ». Oh, sûrement pas pour demain, mais pour après-demain. Celui d'une société diverse dans ses composantes, dans certaines de ses convictions, mais convergente sur les outils du vivre ensemble et unanime, j'insiste là-dessus, pour ne rien laisser passer dans les comportements déviants, en contribuant à les prévenir, en se désolidarisant des auteurs. Cela vaut pour chacun, tous membres d'une même société, valeur supérieure aux différentes communautés, partageant les mêmes valeurs. Qu'une maman voilée puisse accompagner une sortie scolaire, évidemment. Mais peut-être qu'à terme, chaque enfant puisse être heureux de donner la main à sa jolie maman serait un but honorable, voire heureux.
Oh, jolie maman. Merci beaucoup, Daniel Cabanis, pour ce point de vue, votre point de vue bien personnel. Je suis contente qu'on ait pu l'entendre ce matin en contrepoint à celui que nous avons entendu avec Jean-Frédéric Poisson, qui était mon invité. On ne se dit pas à la semaine prochaine, puisque ça sera le 11 novembre, mais à dans 15 jours, Daniel.
À dans 15 jours. Au revoir.